et France 24 présente
Mardi politique.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ce soir nous recevons Julien Drey qui est, bonsoir, vous bonsoir. Êtes membre du Conseil national du Parti Socialiste. Donc l'affaire des sous-marins, on va en parler, a tourné à l'empoignade politique en France. L'opposition critique le silence du président Macron qui en quelque sorte attend de parler à Joe Biden. La France se dit humiliée, elle a de quoi ?
Elle a de quoi, vu la manière dont les choses sont passées, parce que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment les services français qui existent, qui sont une réalité, qui sont même surtout compétents, n'ont rien vu venir, et comment les Américains et les Australiens, surtout les Australiens, ont baladé les Français pendant des mois et des mois. Alors ils disent qu'il y avait des signaux, bon peut-être, mais en tous les cas, c'est une humiliation pour la France, c'est un énorme marché, c'est toute une région qui est impactée par ça, et donc c'est vrai que ça se fait pas comme ça en tous les cas.
Mais pourtant, la France était réclamée par l'Australie parce qu'elle a une présence en Indo-Pacifique, la France. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Australie réclamait que la France soit là, soit grâce à ses mers, grâce à ses infrastructures.
Oui, mais visiblement, d'abord, les Australiens, ils ont changé de position sous la pression des Américains. Les Américains veulent construire une coalition très agressive à l'égard de la Chine. Et donc, ils savent que les Français, ce sont toujours des alliés récalcitrants qui se laissent pas, en tous les cas, entraîner n'importe comment. Ils ont des souvenirs de ce qui s'est passé, notamment dans le conflit avec l'Irak. Et donc, je pense qu'ils ont voulu une coalition qui soit à leur dimension. Et la France était gênante pour eux. Mais c'est aussi une leçon pour la France sur la manière dont elle conçoit aujourd'hui sa relation avec les États-Unis. Et c'est une leçon supplémentaire pour toute l'Europe.
Un secret, en principe, c'est deux personnes maximum. Celui qui l'a, il le confie à quelqu'un.
On dit même en général, quand il y en a deux, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret.
Oui, mais enfin, bon, au départ, il faut bien que vous l'appreniez, le secret, donc de quelqu'un.
C'est Mitterrand qui disait ça.
Donc, un secret, c'est deux personnes. Là, il y avait trois puissances. Comment peut-on imaginer que, finalement, ça n'est pas fuité et que... Non, je vous demande ça dans le sens où, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de théâtre aussi dans les réactions indignées de la France ?
Certainement, il doit y avoir, je dirais, on surjoue pour essayer de faire passer la pilule, comme on dit. Ceci étant dit, d'après ce que j'ai compris, les partenaires ont certainement joué jusqu'au bout l'idée que tout ça allait bien se passer et ont rassuré. Voilà. Alors après, est-ce que les autorités ont pris la mesure des notes qu'on leur a données ou pas ? Il y a un certain nombre de membres des services qui disent « mais on avait fait des notes en disant « attention, il y a des choses qui sont en train de bouger ». Bon, oui, certainement.
Est-ce que dans le fond... Oh, pardon, Frédéric.
Non, je vous en prie.
Est-ce que finalement les Américains confondent alliés et alignés, alors que pour les Français, quand on est allié, on est partenaire ?
Oui.
Est-ce qu'il y a encore cette vieille...
Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que George Trump aurait fait ça.
Donald Trump,
j'aurais fait ça. Tout le monde aurait hurlé en disant voilà. Et là, Sleepy Biden, Joe, comme disait Monsieur Trump, il est en train de faire vraiment un sale coup à la France avec son air. Tout le monde disait il est très pro-français. Vous allez voir, il est très francophile. C'est un bon copain, etc. Enfin, il a fait quand même. C'est dans les présidents américains, c'est celui qui fait la plus grosse vacherie aux Français sur ces 20 dernières années.
Mais là aussi, cet enthousiasme à l'égard de Joe Biden, est-ce qu'il n'était pas aussi un peu surjoué ? Est-ce que ça n'était pas pour ce s'auto-convaincre que ça serait forcément beaucoup mieux sur le plan du multilatéralisme.
Il y avait une telle détestation de M. Trump qu'évidemment, on n'a pas regardé qui il était, ce qu'il faisait et la mémoire vacillante qu'il avait. Je pense que les États-Unis, ils démontrent ce qu'ils ont toujours été. C'est-à-dire, c'est d'abord l'America First, puis en plus, ils ont pris une telle baffe. Et c'est une telle humiliation dans l'affaire de l'Afghanistan qu'ils sont en train d'essayer aujourd'hui de se repositionner. Ouais. Mais la question qui est posée maintenant, pour moi, et c'est ça qui est la plus importante, c'est est-ce qu'on va simplement faire dans l'émotionnel, en surjouant l'émotionnel, ou est-ce qu'on va être capable d'abord de tenir tête aux États-Unis, parce qu'il y a une question simple. Ils sont en train de s'engager dans une croisade anti-chinoise dans tous ces territoires. Est-ce que nous, on va participer ou est-ce qu'on va leur dire maintenant, vous vous débrouillez et nous, on va faire autrement, y compris, on va bâtir une relation différente. Ça veut pas dire qu'il faut être naïf face aux Chinois. On a vu la manière dont les choses sont passées pendant la pandémie. Mais est-ce que l'Europe va exister ? Et est-ce que Emmanuel Macron va être capable de d'intervenir dans cette Europe-là pour l'amener à ce qu'elle bouge. Alors, avec une difficulté qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a une partie de l'Europe qui est en Europe que quand ça l'arrange. Mais regarde du côté des Américains comme c'est pas permis, parce que la question qui est posée pour cette partie de l'Europe, je pense notamment à tous les pays de l'Est, c'est les Russes.
Mais quels sont les moyens de pression de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis?
Moi, je pense qu'il y en a une qui doit. Il y a un réexamen de la politique diplomatique de la France. Déjà, c'est qu'il faut arrêter de mener une guerre interminable avec Monsieur Poutine et avec la Russie. La Russie, c'est elle est encore en Europe. C'est un partenaire, un débouché. Ça sert à rien de continuer à mener toutes ces mesures de rétorsion, etc. Il faut reconsidérer notre relation avec la Russie.
Il est encore temps. On peut rétablir une relation avec Vladimir Poutine.
Moi, je pense qu'on peut rétablir une relation de confiance. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec beaucoup de responsables diplomatiques russes, ils sont effondrés parce qu'ils ne comprennent pas que la France continue à être celle qui, dans toutes les réunions internationales,
mais ils sont les alliés des Chinois.
Dans les sanctions contre la Russie.
Ce sont les alliés des Chinois.
Oui, enfin, les Russes, c'est les Russes d'abord. Et c'est une grande nation. Ils sont pas naïfs non plus sur ce que sont les Chinois. Ils ont compris aussi les risques, mais il faut leur ouvrir une perspective. Je veux dire, à partir du moment où, en permanence, on est là à mettre des sanctions, à interdire un certain nombre de personnalités de circuler, à leur geler leurs avoirs, à leur mener une guerre commerciale terrible, à un moment donné, ils disent, bon, on fait ce qu'on veut, quoi. On va faire autrement.
On va parler de politique intérieure. Donc Anne Hidalgo a déclaré sa candidature il y a 10 jours à Rouen. Est-ce que vous considérez que c'est la candidate qu'il faut au Parti socialiste?
D'abord, ce que je voudrais, c'est que les militants socialistes, ils puissent trancher. C'est-à-dire qu'ils puissent voter, qu'ils puissent débattre. Non, mais pas simplement, c'est pas une ratification. Ce que je demande, c'est qu'il y ait un débat. Parce que s'il s'agit de faire une ratification, il n'y a même pas besoin de dépenser de l'argent à ce moment-là qu'elle a désigné.
Et on est parti pour ça?
On est parti pour ça. Et c'est assez désagréable. C'est la première fois au Parti Socialiste que vous avez une sorte de candidate qui s'est déclarée et on vous dit, bon, ben maintenant, voilà, faut ratifier.
Mais parce qu'il y a peut-être personne en magasin.
Il y a au moins quelqu'un qui est respectable, qui s'appelle Stéphane Le Foll, qui a dit, moi, je suis prêt à avoir un débat, mais ayons un débat sur le fond. Le Parti Socialiste a fait un congrès à huis clos et à guichet fermé le week-end dernier. Je vous le dis honnêtement, j'y ai pas été. Pour la première fois de ma vie, j'y ai pas été. Parce que je ne me sentais pas entraîné par ce congrès. Voilà. Alors on me dit, c'est formidable, il y a une nouvelle génération, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a eu que 20 000 militants qui ont voté, c'est-à-dire le chiffre le plus faible depuis la naissance du Parti Socialiste en 1971, et qu'on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Alors soit il y a un vrai débat, et pour une raison simple, c'est que les Verts, ils ont plus de 120 000 personnes qui ont voté. Et il y a eu un échange de qualité. Bon, on n'aime pas, on a participé, il n'y a aucun échange. C'est-à-dire, vous êtes convoqué, vous mettez votre bulletin de vote, etc. C'est pas le Parti Socialiste que j'ai aimé, que j'ai construit, que j'ai défendu, y compris dans des mauvaises périodes. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite équipe qui décide et qui impose. Je pense que ça ne peut aller qu'à l'échec, ce genre de situation.
Mais c'est
parce qu'une campagne présidentielle, c'est d'abord toute une population militante qui se sent concerné et investi et impliqué. On n'est pas dans cette situation-là. Donc, moi, je le dis encore ce soir, il est encore temps de redresser les choses. Stéphane Le Foll a demandé un débat. Il demande un débat sur les projets. Il est candidat, il accepte de porter ce débat-là. Le 8 octobre, on verra.
Il n'y a pas un déficit de notoriété, tout de même, Stéphane Le Foll?
Vous savez, il y a plein de gens en ce moment qui avaient des déficits de notoriété et puis qui ont eu des succès considérables.
Oui,
justement, c'est la qualité du débat qui fait.
Ce qui est curieux, Julien Drey, c'est qu'on a observé quand même, et beaucoup de partis aujourd'hui le disent, que les systèmes de primaires ont été des espèces de machines de destruction massive pour les partis.
Oui, ça, c'est une théorie qu'on a écrite après.
Oui.
Moi, j'ai fait des primaires qui ont été extraordinaires.
Oui.
Si vous voulez, enfin, j'en ai fait deux. J'en ai fait une
avec. Avant les primaires, ça fonctionnait, le candidat qui émerge.
J'en ai fait une avec Ségolène Royal et ça lui a donné une énorme impulsion. S'il n'y avait pas eu les primaires, elle n'aurait jamais été désignée. Oui. Et moi, je revendique la campagne de Ségolène Royal, qui était d'une grande qualité et qui a quand même marqué, je dirais, la vie politique à ce moment-là. J'en ai fait une autre avec François Hollande, bon, qui l'a gagné avec une participation gigantesque. C'est pas vrai. Et je vais vous dire une chose.
Elle a les épaules, Anne Hidalgo, qu'avait
On a les épaules Ségolène Royal. On va à la confrontation. Si on ne va pas à la confrontation, c'est que quelque part, on en a peur. Et si on en a peur, c'est qu'il y a un problème. Bon, voilà, donc moi, je ne suis pas en train de la critiquer, parce que je la connais, mais sans la connaître plus que ça, parce qu'on n'a pas forcément été dans les sphères militantes ensemble, de direction du parti et tout. Voilà, mais je pense qu'elle a tort, de mon point de vue, d'écouter ceux qui lui disent. D'un certain point de vue, il faut délaisser le Parti Socialiste pour s'occuper du socialisme municipal.
Vous avez l'impression qu'il y a une espèce de confiscation démocratique, en fait, au Parti Socialiste, là, avec.
J'ai l'impression qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau sale du bain, comme on dit. Ouais. Et qu'il y avait des traditions de débat à l'intérieur du Parti Socialiste, et que ces traditions de débat, on a l'impression que ça devient un obstacle. Bon, c'est tout l'inverse de ce qu'a été le Parti Socialiste d'Épinay, de François Mitterrand. Ce qui fait que des militants comme moi, qui est des militants d'extrême gauche, que j'assume quand j'étais gosse, on a été fascinés et on a adhéré au Parti Socialiste avec joie, parce que parce qu'on était respecté, parce que c'était ça fusionnait de tous les côtés. Alors, je me rappelle qu'on me disait tout ça va exploser, vous n'arriverez pas, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait cette capacité de débat, de diversité à l'intérieur du Parti socialiste que ça en a fait sa force.
Est-ce que Anne Hidalgo, si c'est elle, peut être à gauche un rempart contre les dérives du wokisme, du racialisme et des luttes intersectionnelles?
Ben c'est ça tout l'intérêt du débat préparatoire. C'est que, justement, il y a une clarification sur cette question-là.
Parce qu'aujourd'hui, les choses ne vous semblent pas claires à cet égard?
Ah, je pense que les choses ne sont pas claires, mais dans la gauche en général. Il y a aujourd'hui une confrontation majeure à avoir. Il y a un courant qui est importé des États-Unis, qui est en train d'essayer d'établir l'hégémonie sur la gauche et même sur le pays, et qui prend des proportions considérables. Amusez-vous à lire, parce que moi, je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant, les livres de l'éducation nationale, les livres de classe. Et vous allez voir, par rapport à ce qu'on vous a appris à l'école, les mutations qu'il y a à l'intérieur. Et je ne suis pas convaincu que ça soit un progrès. Voilà, dans tous les domaines, hein, l'histoire, les SVT, comme on dit, etc. et tout. Mais voyez bien ce qui est en train de se passer. Je vous prends un exemple qui m'a moi particulièrement choqué. J'ai quelqu'un qui a postulé un poste de direction dans un grand groupe hôtelier
et on lui a en France.
En France. Et on lui a remis, c'est un grand hôtelier anglo-saxon. On lui a remis un questionnaire à cette personne. C'est la première fois que je voyais qu'on demandait aux gens s'ils avaient l'intention de changer de sexe. De quelle couleur ils étaient, comment ils se comportaient, s'ils avaient des opinions antiracistes ou pas. Voilà, c'est toute la culture anglo-saxonne. Nous, on se rend pas compte qu'on est loin, on rigole un peu de ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe dans les universités américaines. Il y a des universités américaines aujourd'hui qui sont sous la tutelle de ce courant différencié.
Evergreen Green en particulier, enfin, elle est connue pour ça.
Elle est connue, mais c'est pas que là, partout. Ouais. Voilà. On renvoie des gens dans les journaux, dans les grands journaux américains, parce qu'ils refusent l'écriture
inclusive. On a récemment renvoyé des musiciens aussi dans un orchestre parce qu'ils étaient blancs.
Mais je pense que c'est contraire, en tous les cas, pour moi, c'est contraire à l'histoire de la gauche française. L'histoire de la gauche française, elle est universaliste, elle est égalitaire, elle est internationaliste, là, on n'est plus de tout ça, on est dans l'inverse, y compris même sur le plan du féminisme. Parce que le féminisme que je revendique, moi, c'est pas un féminisme revanchard. C'est pas les femmes qui gagnent la bataille contre les hommes. C'est un féminisme égalitaire. C'est comme ça qu'il est né, d'ailleurs. Et c'est comme ça que les choses ont progressé.
Alors justement, Sandrine Rousseau, qui talonne de près dans la primaire écologiste Yannick Jadot, qui est arrivée en deuxième position, a déclaré, alors elle prône l'écoféminisme, et elle a déclaré que le capitalisme repose sur la prédation du corps des Noirs, des femmes et de la nature. Alors, est-ce que ça vous paraît être une théorie éclairante?
Je m'excuse, mais cette citation elle illustre tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça.
Bien pour ça.
Y compris par exemple, prenons la question des.
Non, mais ça dit quoi de des Verts, par exemple.
Ça veut dire qu'on est en train de substituer à ce qui était historiquement. Excusez-moi, c'est peut-être un terme passéiste, mais la gauche s'est construite sur ce qu'on appelait la lutte contre les inégalités sociales et donc ce qu'on appelait la lutte des classes. Et là, on est en train de substituer la lutte des races à la lutte des classes. C'est ça le moment dans lequel on est. Voilà. Et la grille de lecture qui s'installe n'est plus qu'une grille de lecture communautaire. Et l'ennemi dans cette affaire-là, c'est l'homme blanc ou l'homme blanc qui est colonisateur, prédateur, etc. Prenons l'exemple des traites négrières. Moi, je suis pour que toute la vérité soit faite, mais dans l'esclavage et dans l'esclavagisme, il n'y a pas que l'homme blanc qui est responsable. Ça qu'on nous dit. C'est plus ça qu'on nous dit.
Mais du temps de SOS Racisme, il n'y avait pas non plus ce discours.
Non, justement, c'est ça ma tristesse, si vous voulez. C'est que nous, on s'est construit justement sur le fameux touche pas à mon pote. C'était le combat pour l'égalité des droits. Et là, maintenant, on est pour la différence des droits. Et c'est tout le combat entre différentialisme et égalitarisme. Voilà. Nous, on était pour que le droit à la ressemblance. Et là, maintenant, on nous explique que c'est le droit à la différence. Et là, il y a une rupture. C'est vrai que quand on a gagné la bataille culturelle avec SOS Racisme, il y a maintenant 30 ans, on l'a gagné sur cette ligne-là. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'était que, justement, tout ce qu'on appelait les gens qui étaient opprimés, oppressés, toutes les minorités, ils aient la possibilité de s'en sortir dans la société et de progresser et d'être reconnus en tant que tels. Voilà. Et l'histoire, c'est pas une revanche pour nous. C'est un dépassement. C'est pas pareil.
Est-ce que l'irruption d'Éric Zemmour dans une sorte de pré-campagne électorale peut bousculer l'échiquier politique, modifier en profondeur les rapports de force à 7 mois de la présidentielle?
J'ai fait chez les concurrents à vous il y a vendredi une remarque que je vais refaire. Je veux pas vous dire que je suis un adepte de la série du Baron Noir.
Vous êtes l'inspirateur, en tout cas.
C'est vrai que je suis l'inspirateur, il faut dire ça à ceux qui l'ont écrit, mais c'est vrai qu'ils avaient une certaine proximité idéologique.
Le Baron Noir, c'est vous, soyons clairs.
C'était en tous les cas, c'était le titre qu'on m'avait affublé quand je suis devenu jeune député. Il y a dans la, je vais pas, bon maintenant de manière ça fait un certain temps, il y a dans la dernière saison, au moment où on prépare la présidentielle, un personnage qui fait irruption et qui va chambouler la donne de la présidentielle. Le personnage porte le nom de Mercier dans la série, et d'après ce que j'ai lu un peu dans la presse, à l'Élysée, à l'époque, on s'est inquiété auprès des auteurs de cette série, en disant, mais qui va être le Mercier de cette présidentielle ? C'est-à-dire celui qui chamboule tout et qui turbule le système. Bah, j'ai l'impression qu'on a la réponse en ce moment. Voilà. Et moi, je ne crois pas que Éric Zemmour, ça soit simplement le Jean-Pierre Chevènement de 2002. C'est-à-dire qui monte dans les sondages et puis qui après s'écroule et finit à 5%. Et je pense malheureusement que, d'abord, il est très structuré idéologiquement, Éric Zemmour, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas simplement qu'un produit des chaînes de télé. Ceux qui pensent que Éric Zemmour n'existe que parce qu'on l'a trop invité ou que CNews lui a donné un espace.
Vous êtes en train de le défendre, là?
Non! Au contraire, je prends la mesure de l'adversaire.
Est-ce qu'il faut débattre?
L'adversaire, pour moi, il est sérieux. Et il se combat pas simplement avec des clichés. Il se combat sur le fond. Parce que.
Il faut débattre avec lui?
Oui, il faut débattre.
Par exemple, Yannick Jadot reproche à Jean-Luc Mélenchon, qui va débattre jeudi soir avec lui, il dit que c'est une faute politique, c'est un débat immonde. Bon, il n'a pas encore eu lieu, mais...
Alors, je vais vous faire une confidence, je vais m'attribuer un peu de vertu. J'ai été un des premiers à débattre avec lui. Voilà, c'est-à-dire pour ça qu'on m'a invité à faire une autre chaîne. Ouais. Voilà, parce que je pensais qu'il fallait aller à la confrontation. Et je ne pense pas que j'ai perdu le débat ce jour-là. Vous pouvez regarder les images, etc. Mais parce que j'ai accepté la confrontation.
Je l'ai vu, mais je ne vais pas arbitrer.
Oui, d'accord. Mais la confrontation avec Éric Zemmour, après je vais voir ce que va faire Jean-Luc Mélenchon, elle ne peut pas se situer sur le terrain de l'antifascisme pavlovien. Voilà. Si on évoque et on convoque en permanence l'histoire, Hitler, etc., pour combattre Éric Zemmour, là on va perdre. Elle doit se combattre sur les questions qui sont posées, c'est-à-dire les angoisses de la société française face à une immigration dont elle a l'impression qu'elle est devenue envahissante et qu'il n'y a, y a pas de solution. Elle est l'angoisse de la société française par rapport à la montée de l'insécurité. Elle est aussi, pour une part d'après moi, l'angoisse face à l'arrivée de ces nouveaux phénomènes de société dont les gens ne disent rien parce qu'ils ont l'impression que s'ils s'indignent ou se révoltent, ils vont être traités d'afro-réactionnaires, etc. Mais il y a des inquiétudes légitimes. Voilà, donc c'est tout ça auquel il faut répondre. Et c'est pour ça que le débat qu'on a à l'intérieur du partialisme, d'après moi, il aurait dû répondre à ça. Parce qu'il faut un courant de gauche républicain, laïque, universaliste, qui soit intraitable avec ces gens-là. Il ne s'agit pas de leur casser la figure, il s'agit de mener la bataille idéologique, voilà, sur ce fond-là. Voilà, je vous ai dit...
Mais la bataille idéologique, ça fait longtemps que la gauche l'a abandonnée.
C'était une bonne occasion de la reprendre. C'était une bonne occasion.
Est-ce qu'il y a...
Dans la confrontation avec Éric Zemmour, et voilà, si vous voulez, moi, je vais être provocateur, entre Éric Zemmour et Sandrine Rousseau, je pense qu'il y a l'espace... un grand espace dans la société française pour défendre ce à quoi je crois, c'est-à-dire la République sociale.
Et entre Zemmour et Rousseau, quel est le plus grand mal ? En un mot ?
Je dirais Zemmour dans la logique que ce qu'il propose peut conduire à vraiment des confrontations et des guerres civiles. Mmh. Mais en même temps, Rousseau, elle va alimenter... Le danger, c'est quoi ? C'est que l'un alimente l'autre.
Ouais.
Voilà. Le danger de cette présidentielle, c'est ce face-à-face
Merci.
Qui peut être mortifère.
Merci. Merci, je viendrai.
Bonjour, c'est Juan.